McCaffrey. Trying to get around the right side. He does. McCaffrey leaps. End zone. Oh, touchdown. Up and in.
Play clock winding down. They get the playoff. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown. Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Poundcast. Vous commencez à le savoir, c'est l'émission du compte Twitter NFL Panthers FR. Comme lors des précédentes émissions, c'est Guillaume qui est au micro. Et pour la première fois depuis bien longtemps, l'équipe est au complet puisque Thomas et Mathieu sont avec moi. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Mathieu.
Salut à tous les deux, ça fait plaisir d'être à nouveau tous ensemble.
Effectivement, on a eu un petit contretemps de dernière minute lors de la dernière émission qui fait qu'on avait été que tous les deux. Mais là, cette fois, c'est la Dream Team avec au programme de cette émission, comme lors des précédentes, on va revenir sur les derniers matchs des Panthers des semaines 9 à 12 avec, donc pour rappel, un déplacement à Kansas City qui s'était soldé par une défaite serrée sur le score de 33 à 31. Puis une défaite à la maison contre les Tampa Bay Buccaneers sur le score assez large de 46 à 23. Et puis derrière, une victoire 20 à 0. Ce n'est pas tous les jours qu'on encaisse 0 points en NFL. Les Panthers l'ont fait face aux Lions de Détroit. Et dimanche dernier, une défaite sur le fil 28-27 dans le Minnesota. Messieurs, comme lors des précédentes émissions, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous retenez de ces quatre matchs ?
Ce que je vais retenir, c'est que, en fait, on a un peu vu deux facettes des Panthers. Une facette qui se fait avoir de très peu, notamment contre les Vikings, où on perd d'un point. Des problèmes qui sont apparus visibles, on va dire, dans ce match. Et on a ce match aussi, voilà, contre Détroit, où on fait un shutdown à Détroit. On a des motifs d'espoir concrètement, mais on a aussi des motifs qui nous font dire qu'il y a encore des choses à travailler.
Ouais, je suis bien d'accord. Deux facettes. On passe quand même à 2 points d'un upset chez les Chiefs. On est à 1 point. On perd 1 point aux Vikings alors que on a mené une bonne partie du match. On shut down donc des trois. Et derrière la défaite contre les Bucks de 20 points, ça c'est clair qu'elle fait très mal, 23 points même. Voilà, sachant que c'est notre première saison sous Brady, Rule, etc. Les erreurs peuvent arriver. Et moi, je retiens plus les trois matchs, la victoire et les deux défaites courtes plutôt que cette grosse défaite qui fait mal. Et d'ailleurs, on voit qu'après cette grosse défaite, ils ont su se ressaisir et travailler un peu mieux. Voilà, même si on finit sur une défaite, bon. On est donc à 4-8. C'est ce qu'on avait un petit peu prédit de notre côté.
Oui, on est à peu près dans les clous de ce qu'on s'attendait en début de saison et puis même au fur et à mesure de l'avancement des semaines. Effectivement, le match contre les Bucks, c'est peut-être même, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison, le seul où les Panthers sont vraiment loin derrière. Parce que tous les autres, le match s'est joué de manière assez accrochée. Il y a quand même eu des belles choses. On avait eu contre Kansas City le retour de Christian McCaffrey notamment, qu'on attendait depuis longtemps. Joie de courte durée parce qu'il s'est malheureusement blessé sur la dernière action de ce match et il est depuis à nouveau absent. Mais voilà, même sans lui, on a continué à voir des belles choses offensivement. Au cours de cette émission, on va justement se pencher un petit peu sur les joueurs qui ont profité de ces quatre dernières rencontres pour se mettre en valeur et faire monter leur cote. Et dans un deuxième temps, les joueurs qui n'ont pas réussi justement à en profiter et dont la cote continue de descendre ou stagne par rapport à ce qu'on avait vu jusque-là. Pour commencer donc avec les joueurs en forme du moment, un premier poste, j'ai envie de tendre le micro à toi, Mathieu. On a parlé des receveurs.
Et oui, et du coup forcément on va commencer par Curtis Samuel. On en avait parlé au précédent podcast, on commençait déjà à être agréablement surpris. Et en fin de compte, il a carrément confirmé ses premières impressions sur ses 4 derniers matchs. Et je me souviens quand on en parlait lors du précédent podcast, c'est vrai qu'il avait un rôle strictement limité au troisième tentative. Et je me souviens avoir dit que je voulais le voir un peu plus ailleurs que sur les troisièmes, et un peu plus sur les autres tentatives, du coup, on va dire. Et du coup, on a eu la preuve que Joe Brady écoute le podcast, puisque c'est ce qui est arrivé. Bon, il reste quand même très efficace en troisième reprise. D'ailleurs, il est troisième, hein, si on prend les stats dans la ligue, à la réception. Il a 17 first down sur troisième tentative. Et ouais, il a complètement confirmé, et pas uniquement sur les troisièmes tentatives. On le retrouve un peu partout, et il a un vrai côté clutch, notamment sur le dernier match contre les Vikings, où en fin de match, il rattrape une bombe de Teddy, alors que je crois qu'il a deux defensive backs sur lui. C'est un catch assez impressionnant. Il nous a fait pas mal de catch impressionnants. S'il y avait un truc à dire, moi, sur lui, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je pense qu'on a... Il faudrait peut-être arrêter de l'envoyer à la course plein centre.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que Mathieu nous dit. Ouais, on le voyait souvent sur les troisièmes tentatives, même énormément sur les passes courtes derrière la ligne de scrimmage pour essayer d'obtenir un nouveau first down. Mais là, maintenant, on le voit beaucoup plus sur des deep balls. Et la preuve que ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'il nous fait des très jolis catchs sur les derniers matchs. Et bah, on en demande plus. Parce que même lui, je pense qu'il en demande plus parce que il y a son contrat qui se joue sur cette fin de saison et c'est pas une période à manquer pour lui.
Oui, tu parlais de passes en profondeur et de réceptions en profondeur, mais il y a son, j'ai envie de me tourner vers son acolyte de l'attaque, DJ Moore, qui a lui aussi cumulé pas mal de yards et qui a une belle moyenne de yards à la réception sur ses derniers matchs. On avait évoqué un petit peu plus tôt dans la saison des problèmes de drop. Ça semble un petit peu s'être réglé. Par contre, malheureusement, il a subi une petite blessure en toute fin de match contre Minnesota dimanche dernier. Ça semble à première vue pas trop méchant, mais c'est quelque chose qu'on va surveiller parce que il est sur une bonne dynamique et ce serait bien qu'on puisse l'avoir jusqu'à la fin de saison pour qu'il puisse continuer dans sa lancée.
Ouais, c'était un peu la petite frayeur sur la fin de match. Je me suis même demandé sur le coup si c'était pas le tendon d'Achille qui avait lâché. Et finalement, c'est moins grave que prévu. On attend encore des nouvelles. Mais bon, si on peut le conserver en bonne santé, ce serait clairement une bonne chose.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Surtout que voilà, comme tu disais, tous les points qui nous faisaient un petit peu peur de son côté, un peu plus tôt dans la saison, ont l'air d'avoir disparu. Moi, je le vois un peu comme une assurance sur le terrain. Je trouve que quand il est visé, on a assez peu, on n'a pas vraiment peur de ce qui pourrait se passer derrière. Maintenant, on n'a plus vraiment peur des drops, etc. Enfin, de mon côté, tout du moins. Et il fait une saison, il continue sur une très très bonne lancée. C'est même encore mieux que la dernière fois quand on en parlait. Et là, il a 924 yards, donc il est pas loin de sa saison à 1 milliard avec 4 matchs restants. Donc c'est vraiment bien. Et c'est quand même un peu particulier, je trouve, parce que dans notre attaque, on n'a pas vraiment de... Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, je suis incapable de dire qui est wide receiver 1, qui est wide receiver 2. Ça change à chaque match.
Ouais, on a une hiérarchie un peu compliquée au niveau des receveurs, parce que on a Robbie Anderson, on a DJ Moore, puis Curtis Samuel qui commence à bien montrer le bout de son nez. Après, j'ai envie de dire que ça dépend aussi peut-être un peu du contexte des matchs, parce que, comme on le sait, Teddy, c'est un quarterback qui aime bien les passes plutôt sûres, donc en général, qui va pas souvent envoyer des bombes, entre guillemets, vers l'avant du terrain. Là où c'est plutôt, j'ai envie de dire, le terrain de DJ Moore, alors qu'Anderson, ça va plutôt être dans le slot. Et ouais, on a une hiérarchie qui change souvent, on a un peu de mal à dire qui est le receveur 1, receveur 2, mais je pense que c'est plutôt bien pour nous.
Il y a une vraie complémentarité entre eux, hein, puisque j'ai envie de dire que presque les trois receveurs qu'on a cités peuvent prendre la place l'un de l'autre, et sur un match, on va en avoir un qui est plus en forme ou plus visé que l'autre. Et sur le match d'après, ça va tourner, et il n'y a pas de problème d'ego entre eux, de voilà, moi je veux plus de ballons. En tout cas, jusque-là, on verra dans le futur, mais jusque-là, il semble l'entente entre ces trois semble bien fonctionner. Il n'y a pas de, il n'y en a pas un qui semble tirer plus la couverture vers lui que les autres. Voilà ce qu'on pouvait dire à peu près pour les receveurs. Il y a un autre point où ça s'est pas trop mal amélioré, un point où on avait été assez critique. C'est la ligne offensive, et notamment l'intérieur de cette ligne, avec deux noms dont on avait envers qui on avait été assez critique lors du précédent podcast. C'était Chris Reed et Matt Paradis. C'est mieux quand même là sur ces quatre derniers matchs. La protection sur Teddy, sans être élite, était quand même plus au niveau de ce qu'on peut espérer. Seulement 5 sacs concédés. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ces prestations ?
On a une amélioration par rapport à ce qu'on a pu voir sur les matchs précédents. Après, c'est quelque chose qui fait du bien, parce que comme on a un quarterback, comme on dit, comme d'habitude de le dire, qui aime bien la sécurité, c'est toujours bien de lui laisser le temps pour pouvoir grappiller des yards à chaque fois. On va espérer que ça se poursuive. Comme tu dis, on n'est pas sûr de l'élite, mais tant que ça tient et que ça prend pas trop l'eau, je pense que ça...
Pas grand chose à ajouter de plus. Après, autant je suis assez enthousiaste sur quand on a parlé des receveurs. Là, pour la ligne offensive, j'attends quand même de voir si ça dure. Parce que je trouve quand même qu'on part de très loin et qu'on a réussi à faire quelque chose de pas mal. Ça me paraît quasiment trop beau pour être vrai. Donc, un peu, c'est mon côté pessimiste.
Alors je vais te proposer quelque chose qui va peut-être te sembler plus agréable à regarder. On va passer de l'autre côté de la ligne. Le troisième joueur qu'on a mentionné comme ayant vu sa cote grimper au cours des derniers matchs, c'est notre defensive end Brian Burns, toujours aussi rapide et impressionnant depuis le début de la saison, mais maintenant il y a des chiffres et des sacs notamment qui viennent ponctuer cette efficacité et cette présence sur le terrain.
Voilà, là je suis Brian Burns, c'est le cas de nous trois, mais je suis complètement... Je suis à fond. C'est bien parce que on était déçus sur le début de la saison qu'il soit aussi efficace en quelque sorte face aux lignes offensives, mais qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au sac. Et là, sur les 4 derniers matchs, il y a 3 sacs, donc c'est déjà mieux. Il arrive mieux à conclure. Alors, je sais pas. Je pense qu'il bénéficie aussi de l'amélioration un petit peu de la défense derrière. On en parlera après. Mais c'est génial. Il est très très bon en pass rush, évidemment. Mais même il est utilisé sur différents rôles, même sur de la couverture. Et même là, il se débrouille super bien. Et même lui, il dit que ça lui plaît bien de pouvoir un petit peu multiplier les rôles. Donc si il se débrouille très bien et qu'en plus il prend du plaisir et que ça fonctionne. C'est super pour la suite, quoi.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec Mathieu. Puis j'ajouterais aussi que il a une cote qui grimpe dans la ligue. Parce que je lisais aujourd'hui, il est encore en tête pour les votes du Pro Bowl parmi les defensive ends de la NFC. Ouais. Donc voilà, c'est le petit chiffre indicatif, mais c'est toujours sympathique de le remarquer pour un joueur des Panthers.
Ouais, son niveau est reconnu, quoi.
Très clairement, ouais.
Ah, je l'ai jamais caché, mais pareil, hein, comme vous, moi je suis un très très gros fan de Brian Burns, et j'espère pas lui porter la poisse, mais quand je le vois, il me rappelle de plus en plus un certain Julius P à ses débuts. S'il a la même carrière, c'est tout ce que je lui souhaite, mais c'est vraiment un bonheur de le retrouver tous les dimanches sur notre ligne défensive. Un autre joueur que ça fait énormément plaisir de retrouver dans notre défense. Alors là, j'ai pas vraiment de comparaison. Là, j'arrive pas à trouver de comparaison de joueurs comme lui qu'on aurait eu. C'est évidemment Jeremy Chinn, qui, on est obligé de le mentionner encore plus après sa dernière sortie face à Minnesota. Mais quelle saison il nous fait depuis le début, lui, c'est incroyable.
Ouais, clairement. Il nous fait un gros match ce week-end, notamment. Deux fumbles recouverts et deux touchdowns sur ces fumbles, play sur play, ce qui est encore plus rare. Franchement, ça fait plaisir à voir un joueur comme ça en défense. En plus, on l'a drafté relativement par rapport à ses statistiques sur le terrain, on l'a drafté en milieu de draft, fin de troisième tour, il me semble.
Fin de deuxième.
Donc, on voit quand même un peu plus haut. Mais une très bonne production, un gros match contre les Vikings. Bon, malheureusement, on connaît la fin du match. Mais d'ailleurs, il passe tout juste à côté du titre de joueur défensif de la NFC cette semaine.
Oui, clairement, c'est la bonne surprise. Si on peut vraiment parler, oui, on peut parler surprise parce qu'on l'attendait pas forcément à ce niveau-là. C'est dingue. Je saurais pas vraiment comment dire, mais en fait, il surnage un peu. Enfin, on a quasiment du mal à croire que c'est sa première année en NFL, que c'est sa première année dans l'équipe, que c'est sa première année avec ce coaching staff. Enfin, c'est dingue. Et il faut se dire que voilà, il est encore avec nous pour un certain nombre d'années et ça va aller que quand ça améliorera. Peut-être que c'est certainement l'une des nouvelles figures de notre défense et on a de la chance d'avoir que ce soit lui, quoi. J'aimerais bien le voir prendre un sac avant la fin de la saison quand même. Il était pas loin contre les Vikings. Et bon, c'est pas son rôle, mais ça ferait plaisir. C'est peut-être un petit peu ce qu'il a une interception, il a des fumbles recouverts, il a des touchdowns, peut-être qu'il lui manque un sac.
Il a même des conversions sur des fake punts. Alors il doit bien lui manquer plus qu'un sac.
Ouais, il a même des first downs, donc...
Il a vraiment tout, il est partout.
Allez, on va prier. Il reste 4 matchs pour essayer de trouver un sac. Ça doit se trouver.
Peut-être qu'il aura l'aide du dernier joueur qu'on avait envie de mettre en valeur ce soir, Shaq Thompson. Pareil, on a été assez critique avec lui jusque-là. Il n'était pas au niveau de ce qu'on attendait. Mais sur ces deux derniers matchs, notamment après le coup de gueule qu'il a poussé dans le vestiaire après la déroute contre les Bucks, c'est mieux sur le terrain et c'est mieux individuellement et collectivement.
Ouais, c'est vrai, je crois que la dernière fois, moi j'ai même dit qu'il était nul, je crois. En fin de compte, c'est bien. C'est pour que lui aussi il écoute. Peut-être qu'il écoute en team meeting, hein, on sait pas. Mais ils écoutent notre podcast, donc ça fait plaisir. Et ouais, moi je me disais tout à l'heure que ouais, s'il continue sur cette dynamique là jusqu'à la fin de la saison, je pense qu'il y a. Il y aura pas forcément de débat sur est-ce qu'il reste avec nous ou pas. Voilà, il nous montre ce pourquoi on l'attendait, ce pourquoi on l'a prolongé. Et ça fait plaisir de voir que ça se met enfin à fonctionner, quoi.
Ouais, c'est ça. On a l'impression que la blessure de Tyre Whitehead a été très positive pour lui. Et c'est un peu un joueur que j'aimais bien, j'avais beaucoup d'espérance en fait, beaucoup d'espoir. Au moment où en fait on avait encore Kikli en défense, on avait Thomas Davis, du coup je me suis dit on va avoir une belle triplette de linebacker. Ensuite on connaît la suite, Kikli qui prend sa retraite, Thomas Davis qui part, il s'est retrouvé un peu tout seul parmi le corps de linebacker. C'est un peu, j'ai envie de dire maintenant, la grosse tête de ce corps, mais... On était très clairement déçus par les premières performances. Autant là, sans Tyre Whitehead, il y a du mieux. Bon, il y a des petits manqués de temps en temps, on ne dit pas, bien sûr, mais ça fait plaisir, c'est du positif.
C'est vrai que je n'avais pas réfléchi cette manière-là, mais peut-être que c'était Whitehead qui... L'aura négative de Whitehead qui faisait du mal à...
On a aussi quelques mentions un peu spéciales de joueurs, parce qu'on ne pouvait pas tous les lister non plus, mais... justement un mot sur Jermaine Carter qui a pris la place de middle linebacker aux côtés de Shaq Thompson et Jeremy Chin et qui a fait il a été titulaire sur les deux derniers matchs et il a fait un bon apport sur ses rencontres, donc c'est vrai que c'est une bonne chose pour lui. Il s'est bien montré, il devrait conserver un rôle plus important que ce qu'il a eu jusque là sur les derniers matchs, on l'espère en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres joueurs que vous vouliez mettre en valeur dans les joueurs en hausse?
On avait évoqué rapidement Troy Pride. Si je ne dis pas de bêtises, on en parlait dans le dernier podcast en disant qu'on était déçus par sa saison de rookie jusqu'à présent. Et en fin de compte, lui aussi, sur ses derniers matchs, il a réussi à montrer de belles choses. On hésitait un petit peu à en parler dans cette rubrique là parce que bon, il y a encore pas mal d'erreurs et un petit peu l'impression que pour une bonne action, il y en a une mauvaise derrière. Mais c'est plus aligné avec une saison de rookie, avec ce qu'on attendait de lui dans sa saison de rookie que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc voilà, c'est normal en étant rookie de faire des erreurs. Et là, il y a quand même plus de positifs qu'il y a 4 matchs. Donc voilà, c'est bien. À voir s'il continue sur cette lancée.
Très bien. Ben, je vous propose qu'on marque une petite pause et qu'on se retrouve dans quelques secondes avec la partie un petit peu moins agréable et les joueurs dont la cote, à l'inverse, a baissé ou au mieux stagné sur ces dernières rencontres, selon nous. Voilà, on est de retour donc avec la deuxième partie de cette émission, la partie stock down, pour faire le pendant de celle de tout à l'heure. Et le premier nom qu'on a listé dans cette section, c'est celui du tight end Ian Thomas, dont on a été amené à parler lors des précédentes émissions, et qui malheureusement ne nous a pas fait mentir par rapport à ce qu'on avait dit jusque-là sur sa saison.
Ouais, moi je ne sais pas trop quoi dire sur Ian Thomas, si ce n'est que bah, il continue de chuter match après match. Il sert clairement à rien. Jusqu'à présent, quand on en parlait, on savait pas trop à quoi c'était dû, mais bon, là, après tous ces matchs, bon, s'il est toujours aussi peu utilisé, c'est qu'il doit y avoir un problème tout simplement de niveau, quoi. Et ouais, il apporte rien. J'aurais même tendance à dire que Chris Manners apporte plus que lui, parce que sur les blocs, au moins, il nous aide. Tandis que Thomas, bon, c'est pas de façon fort les blocs, et il est pas utilisé à la passe, qui est censé être son point fort. Et voilà. Et on parlait aussi du fait que très peu de réceptions, et puis très peu de gains après les réceptions. Très peu de yards after catch. Donc c'est finalement un skill set très réduit sur ce qu'on a vu cette saison. Donc, je pense que son avenir est en danger chez les Panthers, en tout cas.
Depuis de match en match, sa cote baisse, mais même, j'ai envie de dire, d'année en année. Parce qu'il nous avait fait un super match, peut-être il y a 2 ou 3 ans, peut-être un peu plus.
Ouais, c'était sur la première blessure de
Greg Olsen. Ouais, il nous fait un super match.
Ouais, moi, je l'ai adoré, hein.
On avait beaucoup d'espoir. On voyait un peu le nouveau Greg Olsen de l'équipe. Et, là, depuis ce temps-là, cette saison surtout, c'est la douche froide.
C'est cette saison, ouais. C'est surtout cette saison, parce que je pense que si on regarde les saisons la saison dernière, par exemple, je pense que
il était peut-être plus utilisé à la passe.
Parce que quand il remplaçait Greg Olsen, il me semble que il avait quasiment autant il était quasiment autant utilisé que Greg Olsen. Mais du coup, ça cache quelque chose.
Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Alors, je vais pas en rajouter, je vais pas redire ce que vous aviez dit. Mais le seul truc que je dirais, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui attendaient une grosse saison d'Ian Thomas. J'étais pour ma part beaucoup plus sur ma réserve et dans l'attente. Jusque-là, je pense qu'il n'a pas convaincu grand monde. Et comme tu le disais, Mathieu, je ne sais pas ce que deviendra la suite de sa carrière. Et si je ne suis pas sûr qu'elle se continue très longtemps du côté de Charlotte et de la Caroline du Nord. Un autre joueur dont la carrière en Caroline du Nord semble amenée à se terminer assez vite, on en a parlé tout à l'heure, c'est Tyre Whitehead, le linebacker qui avait à sa décharge la très très lourde tâche de prendre la succession de Luke Kuechly. Et après un début de saison où il était très utilisé, puisque je crois qu'il avait eu plus de 90% des snaps en défense lors de la première semaine, son taux de participation au match n'a cessé de décroître et il n'a pas joué pour cause de blessure, certes, contre Détroit et quasiment pas contre les Vikings. On va pas s'acharner gratuitement sur lui, mais c'est le maillon faible de la défense hein, jusque-là.
Bah ouais. Il aura fallu un match à Jermaine Carter pour prendre sa place, ça veut dire beaucoup, je pense.
Bah ouais, voilà, je suis plutôt d'accord. Personnellement, j'ai même envie, j'ai envie de dire que bah j'attends plus rien de sa part entre guillemets de cette saison. Comme je disais tout à l'heure, même Mathieu le disait, on a peut-être une influence négative de Whitehead sur la défense, notamment aux côtés de Shaq Thompson. Bah, j'ai envie de dire que j'ai bien envie de voir Shaq Thompson un peu se débrouiller, enfin être sans Tyre Whitehead sur les prochains matchs pour voir si notre impression sur Thompson se valide bel et bien.
Et puis ce qui est absolument terrible, c'est que non seulement quand il est sur le terrain, on voit que ça ne marche pas en défense, et en plus quand il n'est pas là, ben, on voit que ça marche mieux, donc, et que les autres joueurs arrivent à mieux jouer, que la défense dans son ensemble semble meilleure. Donc c'est un petit peu la double peine pour lui, et c'est effectivement une des recrues qui n'a pas fonctionné du tout cette année.
Et puis en plus, Carter fit beaucoup plus dans cette défense jeune et dynamique que Whitehead, quoi. Donc ça paraît tout prouvé de finalement terminer cette saison avec Carter à la place de Whitehead. Voilà, c'était une erreur de free agency. Voilà.
Le troisième nom qu'on a dans cette section, c'est celui de Joey Sly, le kicker. Qui ça commence à faire beaucoup là de field goal important manqué. Alors à sa décharge, il en a eu deux à la Nouvelle-Orléans et à Kansas City où il était à plus de 65 yards. C'est compliqué, mais même sans ça, il inspire toujours pas confiance au niveau de sa précision. Même s'il a un énorme coup de pied en termes de distance sur la précision, c'est pas ça.
Ouais, c'est ça, il est mis dans des configurations qui sont un peu compliquées. Ouais, notamment avec les deux kicks, ouais, à 65 yards ou plus. Et on se rappelle du kick qui passe vraiment juste en dessous de la barre. Alors que on aurait pu obtenir beaucoup plus que la défaite. Mais voilà, il y a des fois où, notamment contre les Vikings, où là par contre, stade intérieur. Pas de vent, distance beaucoup plus faible que 65 yards. Je pense qu'on pouvait attendre clairement mieux de ce kick qui a fini dans le bar à saucisses, dans la tribune.
Un bon kicker doit être capable de mettre des figottes de 54 yards dans une salle pour faire gagner son équipe. Et là, ça pioche un peu.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en NFL, les field goals à 54 yards, c'est... Ça semble presque le b.a.-ba hein, du boulot des kickers. Autant il y a quelques années, je me souviens, on était plus sur des field goals où la norme c'était 45. Là aujourd'hui, un kicker qui réussit pas ses field goals à 50 yards, il peut pas évoluer en NFL, j'ai l'impression. Donc on va voir. Il a pour lui d'être agent. Restreint et exclusif même, je crois. Donc les Panthers peuvent leur signer un an au tarif minimum. Donc il sera vraisemblablement prolongé dans l'intersaison, mais reste à voir s'il réussira à gagner le camp d'entraînement. Je ne doute pas qu'il y aura de la compétition pour lui sur ce poste.
Clairement.
On a un dernier nom dans cette liste, c'est celui de Will Grier. Donc on aurait presque pu mettre PJ Walker en stock-up, mais on a plutôt choisi de mettre Will Grier en stock-down, notamment parce que il a clairement été dépassé dans la hiérarchie, et il semble absolument pas rentrer dans les plans de Matt Rhule pour le futur. Je sais pas trop ce que ça va donner la saison prochaine pour lui, et je suis pas sûr qu'il soit encore chez les Panthers.
Il a réussi à faire baisser sa cote sans jouer, ce qui est pas mal. Mais voilà, c'est ce que tu disais. C'est notre choix de draft d'il y a 2 ans. Et au final, il y a l'opportunité de le faire jouer, il joue même pas. Ça fait quand même du coup quelques années qu'il a pu essayer de se développer un peu en camp d'entraînement et à l'entraînement tout court, et visiblement ça n'a pas suffi. On a en plus eu une déclaration de Matt Rhule un peu bizarre à son sujet, qui disait, si je n'ai pas de bêtises, qu'il n'avait pas besoin de le voir jouer pour savoir ce qu'il valait. On comprend un peu comme on veut, mais moi je ne vois pas ça comme un compliment.
Je pense que c'est à peu près le même genre de phrase que quand dans le président dit que l'entraîneur a toute sa confiance. Je pense que c'est à peu près la même situation.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et qui rajoute aussi que voilà, on fait pas non plus jouer les joueurs par rapport à leur choix de draft. Donc bon, je pense que c'était une draft ratée. Ajouté à ça le fait que du coup, c'est pas le projet de Rule, c'est pas le projet de Brady, donc ils en ont, on peut le dire, rien à faire de lui. Donc bah voilà, il y a aucune raison qu'il reste en fait. À la suite de cette saison, moi je vois pas trop ce qui pourrait le faire rester.
Non, bah ouais, c'est ça. Enfin, puis même, j'ai envie de dire, ouais, comme tu dis, avec Rule et Brady, concrètement, voilà, les coachs sont là depuis cette année. On a Bridgewater qui est là depuis cette année aussi. On sait que d'un point de vue quarterback, ça peut changer de la saison à la suivante. En ce moment, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. On sait pas si, par exemple, si Brady reste, on devrait peut-être continuer avec Bridgewater. Il y a peut-être d'autres options qui vont se profiler. Quand on voit que la hiérarchie n'est pas assurée sur le quarterback 1, on peut se dire que voilà, le quarterback 3, surtout si on n'a rien à montrer, on n'a pas de plan avec lui.
Voilà, donc pour les joueurs qu'on avait mis en avant dans cette section Stock Down, on avait 2-3 petites mentions comme tout à l'heure. J'ai envie de commencer par son compère de la draft passée, le left tackle Greg Little, qui pareil a sombré un petit peu dans la depth chart puisqu'il a même été devancé par Trent Scott voire Dennis Daly comme backup de Russell Okung. Pareil, point d'interrogation pour la suite de son avenir. Je sais pas si Marty Hornet sera et s'il est prêt à s'en séparer tout de suite, mais clairement la saison n'a pas évolué dans la bonne je pense, dans la direction qu'espérait Greg Little. On avait envie aussi de mentionner Derrick Brown. Alors on est un petit peu dur parce qu'il fait quand même un bon boulot sur la ligne. Mais c'est plus... il accapare l'attaque adverse. C'est vrai qu'il est souvent pris en double team. Ce qui permet de libérer des joueurs comme Zach Kerr ou Efe Obada qui font des plutôt bonnes saisons. Mais c'est vrai que comparé à ce qu'on attendait et à ce que peut apporter un autre rookie comme Jeremy Chin, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, même si ce n'est pas les mêmes postes et les mêmes profils et les mêmes visibilités, c'est vrai qu'on est légèrement sur notre faim, notamment aussi par rapport à un problème de pénalité hein, et de discipline. Mais bon, on est un petit peu dur avec lui, mais c'est parce qu'on l'aime bien.
Ah, c'est ça. Et voilà, donc du coup, la dernière mention spéciale à laquelle on avait pensé pour ceux qui voient leur cote un peu descendre, c'est le duo Matt Rule Joe Brady. Pourtant, on n'était pas radin sur les éloges, on va dire, depuis le début de saison. Mais là, on commence quand même à avoir des faiblesses déjà sur la gestion des fins de match, et on l'a vu déjà chez les Vikings, où finalement, quand on récupère la balle pour une dernière possession, c'est un peu de l'ordre du miracle, parce qu'on a déjà un peu... On s'est déjà tiré une balle dans le pied sur le drive d'avant où on essaie de croquer la montre et on échoue misérablement et on donne une dernière possession aux Vikings. Donc ouais, des fins de match un petit peu hasardeuses, alors qu'en plus, quand Matt Rule est arrivé, on nous a vendu un peu un football qui va être un peu basé au niveau des stats, du clock management, etc. Au final, bon, c'est pas transcendant, on va dire. Et il y a aussi... un petit problème, je trouve, côté... Enfin, on trouve tous, hein, d'ailleurs. Sur l'exécution en red zone, qui laisse encore à désirer. Et, enfin, c'est surtout lié au play calling, au final. Parce que ouais, on se retrouve souvent à des snaps en red zone où, après le snap, on se demande un peu pourquoi est-ce qu'on a fait ça, quoi. Parce que, à y repenser après, il n'y avait pas forcément de... Il y avait très peu de chances que ça arrive au bout.
Plutôt d'accord avec l'analyse de Mathieu, mais je repense notamment à ce play dans le dernier match là, contre les Vikings, quand on récupère le ballon sur le muffed punt des Vikings, qu'on est en red zone. Vu le positionnement, sur le coup, il y avait du recul. Quand on voit le score final, on se dit que ça fait mal quand même de pas avoir pu récupérer le touchdown.
T'en parlais tout à l'heure avec le play calling en red zone notamment. C'est des problèmes qui sont pas nouveaux, quoi. On en a parlé déjà un peu plus tôt dans la saison, et ça semble malheureusement pas forcément être réglé depuis. Donc, sans parler de... Sans vouloir être trop dur avec eux, hein, ils sont aussi coach rookie, ils font du bon boulot, mais c'est vrai que on espérait voir un petit peu d'amélioration là-dessus. Donc on espère voir ça sur les quatre derniers matchs. Justement, en parlant des quatre derniers matchs, on arrive à la fin de cette émission. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on peut attendre sur ces matchs qui nous restent. Donc comme tu le disais tout à l'heure, Mathieu, on a un bilan à 4-8. Bon, je pense qu'on peut raisonnablement dire que les playoffs, c'est plus la peine de trop y penser, même si on n'y a jamais, on s'est jamais fait trop d'illusions là-dessus. Qu'est-ce que vous espérez voir dans les matchs qui restent?
Je pense que c'est comme on disait un peu au cours de l'émission. Enfin, comme je disais personnellement, j'aimerais bien revoir quand même du Curtis Samuel pour voir si c'est vraiment une bonne dynamique. Pareil pour Shaq Thompson. Après, ouais, voilà, comme tu dis, les playoffs, c'est foutu pour cette saison, mais je veux dire, c'était un peu prévu depuis le début d'année. On n'était pas pro tanking, loin de là, mais je me dis que, par exemple, si on gagne les quatre prochains matchs, ce qui s'avère compliqué tout de même, je verrais pas en fait l'intérêt de finir à 8-8 dans le sens où on serait dans le milieu de tableau à la draft, et alors qu'on pourrait peut-être être un peu plus haut en termes de top pick et essayer de récupérer vraiment un bon playmaker là où on en a vraiment besoin.
Ouais, moi je sais pas trop si j'ai envie de gagner ou de perdre. Non, je pense que moi j'aurais plutôt tendance à dire que ouais, j'aimerais qu'on gagne le match qu'on peut gagner parce que c'est pas un avis qui est trop populaire, je trouve, parce que quand il y a deux saisons quand on fait tout pour gagner le dernier match contre New Orleans, il y a eu beaucoup de critiques. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir une dynamique de victoire, surtout pour un nouveau coach. Et que même si derrière, il y a une grande période d'off-season, je trouve que c'est bien de finir sur un run, même si ça peut nous coûter des choix de draft. Voilà. Après, bon, en parlant de victoire, il reste 4 matchs. Donc Denver, Green Bay, Washington, New Orleans. Pour moi, il n'y en a que 2 qui sont prenables et il faut encore réussir à les prendre. Donc bon, rien ne dit qu'on va forcément détériorer notre position à la draft sur ces 4 prochains matchs. Mais voilà, du coup, moi, ce que je veux voir, c'est gagner les matchs qu'on peut gagner et surtout voilà, continuer à avoir la progression qu'on observe sur les joueurs qu'on a cités sur le podcast. Essayer de voir si ceux qui sont en chute libre depuis le début arrivent à montrer peut-être quelque chose, un petit truc avant de finir la saison et de rentrer à la maison. Mais c'est en lien avec tout ce que moi j'ai attendu cette saison. Essayer de voir de belles choses sans obligation de résultat et une bonne optique pour l'avenir.
C'est vrai que cette année, on n'avait pas la pression du résultat, comme on dit. L'essentiel, c'était plutôt le contenu du match. On aura l'occasion de refaire une émission débrief sur l'ensemble de la saison et de comment ça s'est passé. Mais globalement, je pense qu'on peut quand même être assez satisfait de ce qu'on a vu. Honnêtement, la position à la draft, je ne sais pas si ça impactera tant que ça. Tu parlais de la victoire à Nouvelle-Orléans il y a 2 saisons de ça. Elle nous avait fait de mémoire reculer à la 16e place. Ça ne nous avait pas empêché de récupérer Brian Burns. Donc, je pense que des joueurs de talent, il y en aura à tous les niveaux, notamment dans le premier tour. On verra au moment voulu qui on peut sérieusement envisager de recruter. Là, l'idée, comme vous le dites, ça va être de donner du temps de jeu à prendre la confiance pour certains joueurs et puis voir ce qu'on peut gagner et voir comment on termine cette première saison sous Matt Rhule. Thomas, Mathieu, merci à vous.
Bien, merci à toi Guillaume, merci à toi Mathieu aussi.
Ouais, merci à tous les deux, c'était sympa, ça faisait du bien d'être à nouveau tous ensemble.
Merci à vous tous de nous avoir suivis et puis on va se donner rendez-vous prochainement pour une future émission. Et sinon, d'ici là, on reste bien évidemment joignable sur Twitter ou bien sur le serveur Discord dont vous retrouvez l'adresse sur notre bio et où vous pouvez nous rejoindre pour échanger avec nous et avec d'autres fans des Panthers entre deux rencontres. à très bientôt pour une nouvelle émission.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.